Merci, Dr. Bateman, pour cette introduction qui a été pour Anne et moi comme un cadeau de Noël. Merci à vous, Dr. Welch, pour cette belle prière. Et comme nous avons tous été touchés par l'esprit de Noël, par la belle musique que nous avons écoutée. C'est toujours un honneur de venir à l'Université Brigham Young. Lorsque F.N.Z.O. Busch tentait de passer un appel téléphonique depuis Francfort, en Allemagne, le 5 décembre de l'année dernière, il a accidentellement appuyé sur le mauvais bouton et son appel a été transféré à Dean Larson à 7 heures du matin. Frère Larson a demandé comment les choses allaient. Frère Busch a répondu en disant « Il est difficile d'imaginer combien nous apprenons de nos expériences en Russie. » Récemment, il s'était rendu à Moscou avec le président de la mission, qui avait plusieurs branches sous sa direction. Il avait écrit à chaque président de branche voulant savoir ce qu'ils allaient faire pour célébrer Noël. Chaque président de branche répondu, sauf un. Enfin, le président de la mission a contacté le président de la branche directement au sujet du projet et a été surpris d'entendre la réponse. « Eh bien, président, qu'est-ce que Noël ?» Il ne le savait pas. Chacun d'entre vous sait ce qu'est Noël, mais aujourd'hui explorons la plus grande des fêtes, encore plus en profondeur. Je n'ai jamais été en mesure de livrer tôt un cadeau de Noël à autant de gens qui sont présents aujourd'hui. S'il y a quelque part dans le monde un groupe de jeunes adultes qui mérite plus un cadeau de Noël spécial, je ne peux imaginer où. Il y a un certain nombre d'années, quelqu'un a commencé à nous livrer des cadeaux la nuit, les laissant sur notre perron environ 2 semaines avant Noël. Nous ne savions pas qui c'était. Lorsque le premier cadeau a été découvert, j'ai demandé à nos enfants de regarder autour de l'allée et notre perron pour voir si la carte avait simplement été retirée du paquet. Ils n'ont pas pu trouver le nom de la personne qui nous avait apporté le cadeau. La même chose s'est produite le lendemain. Au bout d'un jour ou deux, nous sommes arrivés à la conclusion que quelqu'un avait fait de notre famille le centre de la tradition des 12 jours de Noël. Pendant près de 2 semaines avant Noël cette année-là, une merveilleuse jeune femme a déposé des cadeaux et, d'une manière importante, a changé la vie de nos enfants. Ils ont tellement été touchés par sa générosité et par son désir de faire secrètement quelque chose de si gentil qu'ils ont chacun participé aux 12 jours de Noël pour d'autres depuis ce temps-là. La période des fêtes apporte des souvenirs de sa gentillesse. Je voudrais vous faire part de mes remarques aujourd'hui en me concentrant sur 12 cadeaux que je voudrais vous offrir. Je préférerais les livrer en personne, mais bien sûr, c'est impossible. S'ils sont soigneusement réfléchis et utilisés, elles vous garderont sur le chemin de la paix et de la joie aujourd'hui, demain et peut-être pour toujours. Faites de ce Noël le plus joyeux de votre vie. Le premier cadeau. Laissez l'évangile de Jésus-Christ être votre guide, votre philosophie personnelle et le déterminant principal de vos prises de décision. Il y a plusieurs années, un homme que je connaissais depuis 30 ans m'a demandé s'il pouvait venir passer du temps avec moi dans mon bureau. J'ai dit oui, bien sûr. Et j'ai attendu sa visite avec impatience. Quand nous nous sommes assis, il a dit quelque chose qui m'a surpris. Il a mentionné qu'il y avait plusieurs d'entre nous qui semblaient avoir déjà tout compris sur la vie quand nous étions à l'école il y a de nombreuses années. Je lui ai demandé qui, il a nommé plusieurs de nos amis communs. Dans chaque cas, il s'agissait de personnes qui, à peu près à votre âge, avaient décidé de vivre l'évangile de Jésus-Christ. le Sauveur a fait une déclaration intéressante que seul Jean a enregistrée. Nous connaissons tous les mots « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Mais dans ce même 14e chapitre de Jean, quelques versets plus tard, le Seigneur dit « Si un homme m'aime, il gardera mes paroles ». Puis il a continué à réitérer la promesse la plus étonnante pour quelqu'un comme vous qui l'ait jamais faite. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Si le Sauveur aménageait dans votre appartement ou votre dortoir, cela changerait quelque peu votre comportement quotidien. Réfléchissez-y un instant. Pourrait-il jamais y avoir une plus grande récompense que d'être aussi proche du Père et du Fils? Incidemment, mon ami a continué à vivre l'Évangile plus profondément et plus complètement que jamais auparavant, et vit actuellement une vie plutôt remarquable, parce qu'il a décidé d'accepter le don de Jésus-Christ dans sa vie. Une charmante dame a écrit « On ne sait jamais quand quelqu'un pourrait attraper un rêve de toi, une petite chose que tu dis ou une petite chose qu'on voit. » Pourrait ouvrir les fenêtres d'un esprit qui cherche la lumière. Ta manière de vivre compte peut-être peu, mais qui sait, elle peut tout faire. Le deuxième cadeau, frères et sœurs, est de choisir de bons amis. Beaucoup d'entre vous ont déjà comme amis certaines des meilleures personnes que vous connaîtrez jamais. Ils vous aiment, ils vous apprécient, ils sont heureux en votre présence et vous dans la leur. Après vos années d'université, vous vous ferez plus d'amis, bien sûr, mais au fur et à mesure que les années passent vite, vous apprendrez que certains de vos amis les plus proches sont ces hommes et ces femmes que vous connaissez déjà. Sélectionnez vos amis presque aussi soigneusement que vous sélectionnez votre compagnon éternel. Choisissez des amis de milieux et de cultures différents. Beaucoup de vos amis spéciaux doivent être différents de vous. Et de cela vient une grande force. Continuez à gagner leur amitié. Mon épouse et moi, alors que nous envoyons des cartes de Noël chaque année, nous réalisons que certains de ces merveilleux amis d'école demeurent l'épine dorsale de ceux que nous aimons aujourd'hui. Les amis sont les aubaines de la vie. Traitez-les comme un trésor précieux. Le troisième cadeau. Protégez votre nom et faites de votre mieux. J'ai un ami que j'ai rencontré au collège en 5e. Il s'appelle Georges Suval. Il a été un entraîneur de basket très réussi. Il est également philosophe amateur. Périodiquement, je le vois marcher près de chez nous. Nous nous arrêtons pour discuter. Georges a raconté que sa famille était venue de Grèce quand il était très jeune. Au début, parce qu'il ne parlait pas anglais à la maison, Georges ne savait pas très bien lire ou écrire l'anglais. Il a pu garder la plupart de cela secret. Une enseignante perspicace, parce qu'elle se souciait de lui, y a remarqué qu'il essayait toujours de faire de son mieux, a passé du temps avec lui et l'a sauvé. Un jour, son père a essayé d'expliquer à Georges l'importance de faire de son mieux et lui a dit « Hey Georges, si tu dois être quelque chose, sois le meilleur quelque chose que tu peux être. » Son père savait que si son fils faisait de son mieux, il réussirait. Puis son père a dit « Hey Georgie, il y a deux choses que l'on ne peut pas acheter. C'est son nom et sa santé. Prends soin des deux. » Ces quelques mots ont fourni une philosophie personnelle que Georges suit encore. Premièrement, faites de votre mieux. Et cela nous incombe tous, frères et sœurs. Deuxièmement, protégez votre nom. Il a été protégé pendant de nombreuses années. Et troisièmement, protégez votre santé. Si je remarque une seule caractéristique chez les hommes et les femmes avec qui je travaille, c'est leur engagement à aller plus loin. Travaillant souvent, sans relâche, pendant des heures que parfois un individu 40 ans plus jeune ne fera pas. Le respect que vous gagnez si souvent vient quand on vous fait confiance, pour faire des choses supplémentaires si nécessaire. Votre réputation vient de ce que vous faites et des choses que vous dites. Quatrième cadeau, menez une vie fondée sur des alliances. Êtes-vous prêt à conclure un contrat entre vous-même et Dieu, une promesse? Parlons de sortie en couple à titre d'exemple. Qu'est-ce qu'une sortie? Eh bien, l'interaction sociale, aller au match, assister à une activité universitaire, étudier ensemble, regarder une vidéo ou un film, aller faire une promenade. C'est un moment de faire alliance avec Dieu que nous nous comporterons bien. Mais que se passe-t-il si nous définissions une sortie comme une opportunité pour chacun de vous d'apprendre à mieux connaître quelqu'un vous promettant qu'à la fin de la soirée, la personne avec qui vous avez été sera une meilleure personne que lorsque vous avez commencé la sortie? Pouvez-vous dire à la fin de la soirée « Merci d'être une personne si gentille. Cela a été un véritable plaisir d'être ici avec toi ce soir. » Ou peut-être qu'une sortie est un moment pour visiter quelqu'un dans le besoin. Est-il possible que vos meilleures sorties soient quand vous fortifiez et enseignez et aidez et bénissez un autre? Une sortie pourrait-elle être un moment pour discuter de l'évangile de Jésus-Christ dans toute sa magnificence? Et pourquoi pas partager une pensée secrète, un rêve éternel, un espoir futur? Une sortie ne devrait-elle pas être une expérience sans frustration, sans culpabilité? Faites alliance avec le Seigneur en lui promettant que vous laisserez les circonstances mieux que vous les trouverez. Le cinquième cadeau. Donnez au Sauveur une chance de vous développer jusqu'à votre plein potentiel. Le Seigneur vous poussera au bord du gouffre si vous le lui permettez. C'était Jésus qui a déclaré « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Suppliez le Seigneur de vous donner plus de défis. Si vous étudiez 20 heures par semaine, alors dites « Seigneur, je cherche plus ». Laissez son exemple vous donner le pouvoir de demander « En plus de ce que j'ai fait, que puis-je faire d'autre ?» Les sommets atteints par les grands, on n'y parvient pas dans ce bon. Heure le compagnon, tous dormant, montez, peinant à pas profond. Neela Maxwell a reçu une note très faible sur un essai en anglais qu'il a écrit au lycée. Il est allé voir Mademoiselle Masson et a dit « Ce n'est pas juste, c'est un bon travail, je mérite une note plus élevée. » Elle a dit « Désolé, mais j'évalue les élèves par potentiel. Vous êtes capable d'un travail bien meilleur. » Frère Maxwell a souvent déclaré « Elle a fait toute la différence dans ma vie. » Pourquoi? Parce qu'il voulait répondre à ses attentes. Il voulait être la meilleure version de lui-même. Et c'est pourquoi il a continué d'être l'une des personnes les plus verbales et les plus clairvoyantes du royaume. Répondons-nous aux attentes du Seigneur pour nous? N'oubliez jamais. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Le sixième cadeau. Parlez de la vérité et cherchez-la. Dans Jean 4, 23, nous lisons « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Le prophète Joseph Smith a défini l'Évangile comme toute vérité. Jean a également dit dans le 32e verset du 8e chapitre « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Sénèque a écrit « Le temps découvre la vérité. » Qu'est-ce que la vérité? A demandé Pilate, mais il ne semblait pas qu'il voulait en connaître la réponse. Que vous soyez scientifique ou non, faites de la vérité pure un objectif éternel. Ce n'est que lorsque vous êtes honnête que vous êtes en sécurité. Septième cadeau. Cherchez à conserver ou à retrouver le cœur d'un enfant, surtout à Noël. Reviens en arrière. Au temps qui t'enfuit. Rends-moi l'enfant d'autrefois pour la nuit. Dans le Daily Mail, un journal britannique daté du 21 décembre de l'année dernière, un article a été publié signalant que Laura Goffin, 6 ans, avait été informée qu'elle était vilaine pendant la période stressante que de nombreuses familles traversent en décorant pour Noël. En quelques mots hâtifs, elle a été informée que le Père Noël ne descendrait pas dans la cheminée à cause de quelque chose qu'elle avait fait pour énerver ses parents. Laura, 6 ans, avait une peur tenace. Le Père Noël oublierait-il aussi son petit frère et sa petite sœur? Elle a décidé de plaider les cas d'Abigail, 4 ans, et d'Alfie, 2 ans, dans une lettre personnelle au Père Noël. Elle a écrit « Cher Père Noël, ne venez pas me voir, car j'ai été très vilaine et j'ai dit à ma maman que je ne voulais pas jouer pour Noël et que je ne voulais même pas Noël. Mais elle a ajouté un post-scriptum qui disait « S'il vous plaît, venez voir Abigail et Alfie, mais pas moi, Laura. » Sa note, qu'elle a laissée tomber dans la boîte aux lettres du Père Noël devant la mairie de Milford Haven, a touché le cœur de la secrétaire du maire quand elle a lu dans le cadre de ses tâches de saison de fête. Le plaidoyer de la lettre lui a fait mal au cœur et a amené la secrétaire à chercher et à finalement trouver la petite fille qui était prête à rater le plaisir festif de Noël, mais ne voulait pas que son petit frère et sa sœur soient ignorés, une douce petite fille que le monde n'avait pas encore polluée. Le maire lui a donné une nouvelle poupée. Ses parents ont été surpris par la façon dont elle avait répondu, à laquelle elle a dit « Je suis désolée d'être méchante. » Et je promets au Père Noël que je serai une bonne fille à partir de maintenant. À la saison de Noël, George Albert Smith, un homme humble comme un enfant, a rendu visite au magasin de l'évêque. Le prophète a retiré son manteau assez neuf et l'a donné à Deseret Industries pour quiconque en aurait besoin. Ceux qui étaient présents ont vivement protesté contre cela et voulaient qu'il garde son manteau, mais il n'a pas voulu le reprendre. Finalement, une sœur a pris son manteau et y a cousu un petit message. « Quiconque portera ce manteau portera celui de notre prophète, George Albert Smith. » Oh, si seulement nous pouvions avoir le cœur d'un enfant. Huitième cadeau. Le cadeau de la réalité. Cherchez-vous le monde de la réalité? Périodiquement, j'entends une personne moins réfléchie critiquer notre style de vie ou rabaisser ce que nous pouvons faire ou ce en quoi nous pouvons croire en disant « Et revenez sur terre, rejoignez le monde réel. » Puis-je communiquer avec chacun de vous que le monde réel est celui que notre prophète, les dirigeants de l'Église et les Écritures définissent. C'est Gordon B. Hinckley qui marche dans le monde réel, comme nous sommes bénis de l'avoir. Il y a un certain nombre d'années, alors que j'ai quitté le bâtiment des bureaux de l'Église un jour ou deux avant Noël, je me suis retrouvé à marcher à côté de Bruce Hermoconkey. Nous nous sommes souhaité un joyeux Noël. Je suis rentré chez moi et j'ai supposé qu'il avait fait de même. Le lendemain de Noël, le téléphone a sonné. C'était David Wortland, qui était à l'époque l'administrateur de l'hôpital STJ. « Devinez ce qui s'est passé juste avant Noël », a-t-il demandé. « Je ne sais pas », ai-je répondu. Bruce Hermoconkey est venu à l'hôpital. Il a demandé s'il pouvait donner quelques bénédictions. Avec la permission accordée, il est allé de pièce en pièce en plaçant ses mains sur la tête de plusieurs dizaines de patients. Frères et sœurs, c'est ça le monde réel, n'est-ce pas? Neuvième cadeau. Soyez un donneur efficace. Vous savez qu'il y a une ligne que nous devons tous franchir. Il marque l'endroit où un individu reçoit plus de plaisir à donner que de recevoir des cadeaux. En tant qu'étudiant en terminale, plusieurs d'entre nous avaient décidé de remplacer le Père Noël. On nous avait donné le nom d'une mère célibataire qui avait trois petits-enfants. Ils vivaient dans un immeuble d'appartement plutôt lamentable, avec des murs, des marches et des couloirs sales. L'ensemble du bâtiment avait besoin d'une couche de peinture et d'un récurage. Les portes n'étaient même pas très bien ajustées. Nous avons rassemblé de la nourriture, des jouets et des vêtements, et avec hâte, nous avons monté un escalier branlant jusqu'à la porte avec le numéro qu'on nous avait donné. Une femme fatiguée nous a invités à entrer. Il n'y avait pas de lumière chaude, ni même un sapin pour nous accueillir. Ses petits-enfants semblaient trop effrayés pour parler. Tandis que nous placions les cadeaux autour d'un sapin que nous avions acheté et que nous faisions un peu de décoration, nous avons observé un grand téléviseur assez neuf. Après peu de temps, nos cadeaux ont été distribués, signalant qu'il était temps pour nous de partir. La petite famille a dit très peu de choses alors que nous nous sommes glissés hors de cet endroit sombre pour rentrer à la maison. Père m'a salué en arrivant à la maison. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé. « Bien, papa, sauf, et je bredouillais, ils avaient ce grand téléviseur. » C'était une époque où de nombreuses familles n'avaient pas les moyens de se procurer une grande télévision, ni même une petite télévision. Mon père a dit quelque chose comme « Quel est le rapport avec cela ?» J'ai balbutié. « Eh bien, pourquoi la dame n'a-t-elle pas acheté des jouets de Noël, des décorations et de la nourriture pour sa famille au lieu de la grande télé ?»« C'est peut-être tout ce qu'ils ont pour avoir du bonheur dans leur vie », a déclaré papa. je me suis rendu compte que ce qu'il disait était vrai. Nous avions observé qu'il n'avait presque rien d'autre. Soudain, toute mon attitude immature a basculé. Nous avions béni 4 personnes, et c'était tout ce qui importait. Nous ne sommes jamais tout à fait les mêmes après une expérience comme cela. Une partie de ma mesquinerie s'est évaporée cette nuit-là, quand je me suis rendu compte à quel point nous avions aimé donner ces cadeaux. Howard W. Hunter a enseigné, « Regardons un instant en arrière sur notre enfance et analysons ce qui nous a donné le plus grand bonheur quand nous étions enfants. » Il a poursuivi en disant, « Je suis enclin à croire que les choses que nous avons le plus appréciées et celles qui nous ont donné le plus grand bonheur quand nous étions enfants étaient les choses qui nous ont été données. Quand nos parents sont partis et sont revenus, nous avons toujours cherché un petit souvenir qui nous ramenait. Nous attendions Noël avec impatience à cause des choses que nous allions recevoir. Toute notre vie a été construite autour du fait de recevoir. À ce moment-là, nous ne comprenions pas l'autre côté du don. Quelque temps au cours de notre progression dans cette vie, nous sommes arrivés à ce point quand nous nous sommes soudainement rendus compte que ce n'était pas le fait de recevoir qui nous apporte le bonheur. Pour certains, cela arrive tôt dans la vie. Pour d'autres, cela arrive plus tard. Et je suis enclin à croire qu'il y en a qui n'ont jamais été élevés durant toute leur vie. Il manque un des grands principes qui nous apporte le bonheur. » Fin de citation. Oui, j'espère que nous serons tous en mesure de quitter complètement ces années d'enfance où nos pensées sont plus centrées sur nous-mêmes qu'elles ne devraient l'être. Victor Herbert a capturé cette vérité quand il a écrit « Pays des jeux, le royaume des enfants. Tant que tu y demeures, heureux tu y es rendu. Pays d'enfance, joyeux pays des jeux. Quand tu sors de ces portes, tu n'y reviens jamais plus. » 10e cadeau. Bénissez les autres avec vos mains. Sont-elles occupées à lever le fardeau des autres? Sont-elles utilisées dans les salutations heureuses lorsque vous serez la main d'un autre? Les vœux de mariage sont prononcés en se tenant la main. Le diplôme que vous recevez de cette institution sera reçu avec une main tendue. Les mains donnent des bénédictions lorsqu'elles sont placées sur la tête d'autrui. C'est avec nos mains que nous écrivons une rédaction, peignons un tableau, jouons du piano ou faisons signe à un ami en nous séparant. Qu'en est-il des mains de vos professeurs lorsqu'ils écrivent sur un tableau noir ou vous aident à utiliser un tube à essai, un ordinateur ou un appareil de mesure scientifique plus efficacement? Les mains symbolisent tant de choses. À qui vos mains applaudissent-elles? Comment utilisez-vous vos mains? En emballant un cadeau, en aidant un ami avec un problème mathématique complexe qu'il doit résoudre? Chacun de vous apprend à devenir plus autonome et plus habile dans les activités de sa vie. Pourtant, chacun de nous a besoin d'une main pour nous soulever à un moment ou à un autre de notre vie en entrant dans ces mauvais chapitres de notre vie, ou au moins un jour pénible ou deux. Un couple tombant amoureux en se tenant la main dit « C'est toi que j'aime ». Ces mêmes mains pourraient dire « Je vais vous protéger, je m'efforcerai d'être un bon serviteur du maître ». Je jouerai avec un enfant, aiderai un collègue à déménager ou aiderai à faire advenir un joyeux Noël en prononçant ces mots de fête. Gordon B. Hinckley a rapporté un Noël pionnier dont il avait appris l'existence. Il a cité une histoire qu'il avait lue dans laquelle l'auteur a écrit « Je me souviens du Noël de 1862. Nous tous, les enfants, avons accroché nos chaussettes de Noël. Nous nous sommes réveillés tôt le matin pour voir ce que le Père Noël avait apporté, mais il n'y avait rien en eux. Mère a pleuré amèrement. Elle est allée à sa boîte et a pris une petite pomme et l'a coupée en petits morceaux minuscules. Et c'était notre Noël. Mais je n'ai jamais oublié jusqu'à ce jour comment j'aimais ses chères petites mains lorsqu'elle coupait cette pomme. » D'ailleurs, cette année, le président Hinckley s'est rendu dans 20 pays et a fait 137 discours avec 731 671 personnes présentes. Cela n'inclut pas la conférence générale ni tant d'autres engagements auxquels il assiste, tandis qu'il représente si bien le Sauveur et chacun de nous. Le 11e cadeau. offrez le don de générosité. Le niveau de notre partage avec les autres et le niveau de notre amour pour les autres, combiné avec de grandes doses d'oubli de soi. La générosité, en partie, symbolise notre niveau de maturité. Pour les anniversaires de nos enfants et petits-enfants, mon épouse et moi distribuons $1 pour chaque année de vie. J'ai 63 ans. Une petite fille de 8 ans s'inquiétait du fait que je venais de lui envoyer $8 pour son anniversaire, mais qu'elle n'avait pas les moyens de m'envoyer 63 billets $1 pour mon anniversaire. Finalement, elle a trouvé une solution à sa frustration. Elle a dit à notre fille Annette, « Maman, je sais comment je peux faire pour grand-père ce qu'il fait pour nous. » Je lui enverrai $1 par tranche de 10 ans de vie. C'est $6 et 3 autres pour les 3 de 63. Elle m'a renvoyé ses $8 d'anniversaire et un an plus, ne se souciant jamais qu'elle avait perdu $1 dans la transaction. Il y a quelques années, une jeune femme, Cathy Cornwell, a rassemblé des anges pour mettre sur un sapin de Noël spécial qu'elle avait à la maison. Cathy était une charmante jeune femme, une étudiante, qui a appris qu'elle avait une forme agressive de cancer très violente. On lui avait dit qu'elle ne vivrait pas longtemps, mais que la science médicale ferait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider. Elle a également reçu plusieurs bénédictions, bien sûr. Sa collection a finalement grandi à 156 anges, couvrant un arbre d'à peu près 2 mètres avec des lumières et ses décorations spéciales. Cathy et sa mère, Joy Conwell, allaient au vide-grenier, au ventre après Noël et partout où de petits anges pourraient se trouver. À sa mort prématurée en octobre 1996, elle a demandé à sa mère de distribuer ses anges à ses amis. J'ai été béni d'en recevoir un. Je l'ai gardé dans mon bureau maintenant depuis plus de 400 jours. Elle est maintenant un ange elle-même. Sa générosité continue de nous bénir tous. 12e cadeau et le dernier. Comprenez le Noël suprême. Les Écritures nous enseignent, en ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. La plus grande personne qui ait jamais vécu sur cette planète est née. Que puis-je lui donner, pauvre comme je suis? Si j'étais un berger, j'offrirais un brebis. Si j'étais un romage, je lui ferais honneur. Mais ce que je lui donne, c'est mon cœur. Ce qui nous amène à vous et aux dons que vous pouvez donner à Jésus. Oui, Christina Rossetti a essentiellement écrit « Je lui donne mon cœur ». Mais qu'est-ce que cela signifie, « lui donner mon cœur » Jacques, le demi-frère du Seigneur, a écrit avec soin « Toute grâce excellente et tout don parfait, l'expiation, descendent dans l'eau du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Ceci étant vrai alors, nous devons aider les autres à saisir la vraie signification de l'expiation et de Noël, qui est le Christ. Pensez à l'influence que vous, les étudiants, pouvez avoir sur vos parents, vos frères et sœurs, vos amis et vos proches, en les aidant à penser à Jésus encore plus cette année qu'ils ne l'ont peut-être fait en des occasions précédentes. Vous n'oublierez jamais ce Noël si vous le faites. Ensuite, il y a quelque temps, j'ai lu à propos d'un sondage de plus de 6000 adolescents non membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours concernant leurs sentiments au sujet des Écritures. Seulement 14% ont dit qu'ils considéraient la lecture des Écritures très importante. Ce serait peut-être le cas de certains d'entre nous. lorsqu'on a interrogé les élèves sur l'importance qu'ils accordent à une variété d'activités allant de leur relation avec Dieu au service envers autrui, la lecture de la Bible a été classée au rang le plus bas. Noël est sûrement le meilleur moment de tout pour lire les Écritures. Pensez à la façon dont les circonstances entourant la naissance de l'enfant Jésus prennent vie quand nous lisons Luc, qui avait tant appris de Marie parce qu'il a écrit les choses qu'elle seule aurait pu lui dire. Ajoutez ensuite à ces beaux versets ceux trouvés dans 3 Néphites 12 et les sections voisines du livre de Mormon. Il ajoutera des guirlandes à votre Noël cette année, et c'est une promesse. Il s'ensuit alors que vous introduisez un esprit sacré à tout ce qui se passe. Les marchands d'objets ont envahi l'esprit de la plupart des gens, ignorant les caractéristiques du jour saint de la fête de Noël. Le commercialisme en a fait un jour de fête, de folie, de football au lieu d'amis, de famille, de foi et de fidélité à Jésus. Heureusement, il y a des exceptions que chacun d'entre vous connaît. Mais maintenant, imaginez-vous là où vous serez le jour de Noël. Votre réponse avec un enthousiasme gracieux, en exprimant gentiment votre amour pour le Sauveur et pour ceux de votre famille et d'autres avec qui vous entrez en contact, fera de ce Noël le meilleur de tous les temps. N'est-ce pas là l'esprit de Noël? Peut-être que Johnny Hart, le grand dessinateur chrétien, l'a dit aussi bien que quiconque. Il a écrit un poème de Noël qui est apparu dans sa bande dessinée BC il y a 4 ans. Il dit « Suivez l'étoile et vous verrez son don de grâce offert de plein gré. Suivez l'étoile qui suivit le nouveau-né, qui nous donna l'amour, transmit la vérité. Suivez l'étoile qui suit le Fils, qui nous emmène au paradis, où sont nos espoirs et nos trésors. Suivez, ô suivez l'étoile. » Oui, le cadeau de Noël suprême est Jésus. Un père aimant a permis qu'il soit pendu à la croix, même après qu'il s'était exclamé « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi fallait-il que Jésus-Christ souffre ainsi, cette personne parfaite? Parce que le Père, frères et sœurs, nous aime tellement que nous avons ce plus grand des dons, devenir purifiés par son expiation. Grâce à un Père céleste aimant qui a fourni son premier-né pour nous donner des exemples de la façon de vivre et ce en quoi croire. Décidez de vous donner à lui comme votre cadeau suprême. Et si vous le faites, l'année prochaine et toutes les années à venir seront vécues de concert avec ce que notre Père et Jésus espèrent que vous deviendrez. Je témoigne de ces vérités au nom de Jésus-Christ, notre Maître. Amen.